et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis remontée à bloc, chaud patate. J'ai genre 3 couches de pull au-dessus de moi. Il fait un froid canard dehors, mais c'est pas grave. On est chaud, on est bouillant pour ce nouveau débat de Amcamgram où on va cette fois-ci challenger l'organisation inter-équipe. On dit en effet que dans les startups, il ne faut pas rester en silo et que les départements doivent communiquer en bonne intelligence les uns avec les autres. Du coup, on va voir ce qu'il en est, puisqu'aujourd'hui, je vous propose de comprendre le lien qui existe entre plus précisément le département account management et le département produit dans l'entreprise, et plus précisément dans les entreprises B2B SaaS, puisque on le sait, c'est là où le produit est un argument de taille dans la satisfaction client. Account management et produit, je t'aime moi non plus. L'account manager peut-il avoir une influence sur l'évolution du produit ? Ou est-il victime de la roadmap? Pour le savoir, j'invite tout de suite deux invités à qui je vais poser toutes mes questions. Ils sont chauds comme la braise. Je vous propose d'accueillir tout d'abord Philippine. Toi, Philippine, tu es Enterprise Relationship Manager depuis près de 2 ans chez ProxyClick, un logiciel cloud qui gère les visiteurs de l'invitation à la sortie du bâtiment.
Exactement.
Ensuite, Alexandre, toi, tu es CSM Expansion depuis plus de 2 ans chez Spendesk, entreprise qu'on ne présente plus, autour de la gestion des dépenses en entreprise. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Ellie. Merci Ellie pour la mise en relation avec Alexandre. Et maintenant, présentez-vous s'il vous plaît.
Je peux commencer. Du coup, je m'appelle Philippine, j'ai 26 ans. J'ai un parcours qui est plutôt orienté, comme tu le disais, Darina, start-up, SaaS, B2B. Et j'ai une vraie passion pour la psychologie en général, la relation entre les personnes. C'est un peu ce qui me passionne, ce qui m'intéresse le plus sur cette planète. Et aujourd'hui, je suis Enterprise Relationship Manager chez ProxyClick. Donc, ça veut dire qu'une fois que notre outil de gestion des visites est déployé chez nos clients, mon but, c'est de m'assurer qu'ils ont une utilisation optimale, qu'ils utilisent tout le potentiel de l'outil et aussi être cette relation entre notre équipe produit et ce client qui a potentiellement des besoins grandissants.
Ok, top. Et quel est ton plat préféré, Philippine ?
Mon plat préféré, c'est la parmigiana, bien cuite au four, j'adore ça.
Ça va, on est toujours dans l'ambiance au coin du feu, ça fait du bien.
Ouais, comme comfort food.
Exactement. Merci beaucoup. Alex, je te donne la parole.
Yes, merci Darina, très content d'être là aujourd'hui. Et oui, effectivement, un petit bonjour à Ellie. Un petit merci pour la mise en relation. Donc moi, j'ai 27 ans, ça va faire un petit peu plus de 2 ans maintenant que j'ai commencé chez Spendesk. Donc c'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis Customer Success Manager avec un focus particulier sur l'expansion du marché français. J'interviens auprès de nos clients français, majoritairement après leur onboarding. Et avant ça, j'avais fait une petite année d'alternance chez Criteo qui m'avait déjà mis un premier pied, je dirais, dans l'univers tech. Au niveau des passions, j'ai une passion pour l'astronomie, la cosmologie, tout ce qui concerne les étoiles, les planètes, les systèmes solaires, c'est un grand kiff. Je m'intéresse pas mal à ça.
Waouh, sympa. Bon, je sens qu'on va donner une grande dimension à notre débat.
On va essayer d'aller dans les étoiles.
Et quel est ton plat préféré, Alex ?
Écoute, j'ai pas mal réfléchi et je crois qu'en fait, les pâtes thaï vont gagner aujourd'hui. Je suis un grand fan de nourriture thaïlandaise. Je dirais les pâtes thaï.
Avec des baguettes ou pas ?
Avec ou sans baguettes, je m'adapte. du moment que
ouais,
c'est
ouais, ok, je pense que tu fais partie des gens qui disent « Excusez-moi, je pourrais avoir une fourchette, s'il vous plaît. »
Ça m'arrive, je vais pas mentir.
Bon, trêve de plaisanterie. Alors, on va voir comment faire en sorte que le produit entende les desiderata qu'on leur remonte de la part de nos clients sur le terrain, comment aussi jouer un rôle dans la roadmap produit et ensuite comment faire des retours aux clients. Pour commencer, je vous propose l'un et l'autre de me dire, étant donné que vous êtes l'account manager et que vous êtes en fait la voix du client en interne, comment tout d'abord est-ce que vous allez remonter les feedbacks clients au département produit de votre entreprise ?
Pour remonter les feedbacks clients, je dirais que le plus important, c'est de trouver un équilibre en fait entre en fait, savoir traduire le vocabulaire de ton client ou la complexité par laquelle il va te décrire un besoin, une fonctionnalité qu'il souhaite avoir pour pouvoir simplifier et que ce soit facilement identifiable par l'équipe produit. Après, le revers de ça, ça va être pour moi de préserver le fond. Parce que si tu simplifies trop, si tu modifies trop le contenu, si tu mets trop ta propre interprétation, tes propres mots, c'est peut-être un raccourci, c'est peut-être pas exactement le retour client de base. Donc, c'est vraiment un équilibre entre les deux, je dirais.
Ouais, pour compléter ce que tu dis, Philippine, qui est tout à fait juste, nous, on essaye aussi de toujours bien comprendre finalement la raison de la demande du client. Et alors, c'est parfois un petit peu galvaudé, mais nous, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup énormément chez Spendesk. C'est un vrai pilier et c'est traduit dans absolument toutes les équipes. C'est le start with the why. Et donc, lorsqu'il y a une remontée client, on essaie vraiment de comprendre, voire parfois de la challenger un petit peu pour être sûr d'en comprendre bien l'essence. Ce qui fait que derrière, c'est aussi beaucoup plus simple de remonter le feedback de manière qualitative aux différentes personnes en interne. Donc, c'est un enjeu important aussi, je dirais. Et puis, j'avais un petit peu ce penchant, je me souviens, en démarrant, de parfois remonter le feedback de manière très brute, et sans trop le contextualiser, ce qui était un petit peu dommage parce que finalement, j'ai remarqué qu'avec le temps, en prenant un petit peu de recul et en essayant finalement de connecter ce feedback brut client à un autre ensemble un petit peu plus large, ça donne un petit peu plus d'assise, de poids au feedback que tu vas remonter. Et je pense que c'est beaucoup plus simple. Ça a beaucoup plus d'impact par ailleurs.
C'est clair que, en fait, moi j'ai l'impression que si on remonte le feedback brut, comme tu dis, on se prend un tas d'allers-retours dans la figure. Demande-lui un screenshot, demande-lui quel navigateur il utilise, etc. Enfin, ça prend un temps fou et en fait, limite, à la fin, j'ai l'impression que le client il dit bon, laissez comme ça, ça me va très bien.
Ouais, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Et puis le remettre aussi par rapport à une problématique plus générale ou par rapport finalement à d'autres enjeux, ça permet aussi de lui donner une place un petit peu plus importante que juste quelques lignes que tu as remontées dans ton outil ou dans ton process. Donc je pense que c'est quelque chose d'effectivement important. Ouais.
Et quels sont les outils que vous utilisez alors pour remonter ces feedbacks ?
Du coup, en termes d'outils, nous, on utilise Product Board. On va dire que c'est le process chez Spendesk pour remonter le feedback client qui permet d'industrialiser, on va dire, pas mal cette remontée. C'est assez simple d'utilisation. On a même, nous, la possibilité d'intégrer en copie cachée une adresse email qui est directement reliée à Product Board, ce qui permet que, même parfois dans des emails clients, d'avoir le retour sur Product Board, ce qui est assez cool, puisque derrière, tu perds moins de temps à venir remonter le feedback. Et puis, on utilise aussi pas mal Slack. Slack, on a différents channels qui nous permettent de remonter aussi le feedback. Slack, ça a l'avantage d'être un petit peu plus visible que Product Board. Ça permet aussi parfois de créer un petit peu le débat ou des échanges dans les différents threads. Donc, on utilise pas mal Slack aussi. On a des channels dédiés, Customer Love par exemple, Customer Quotes, pour remonter des points particuliers. Et il y a toujours pas mal de visibilité et d'échanges. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi. Ouais.
Moi, dans Customer Quotes, je pense que je ne mettrai pas que des retours feedback. Hein.
Écoute, en tout cas, on insiste un petit peu sur tout. Du coup, on parfois sur vraiment des phase de love du client, ce qui permet aussi de, pour des équipes qui sont pas forcément client facing, de savoir ce qui se passe sur le terrain et de les motiver aussi. Je pense que c'est super important. On essaie vraiment parfois aussi de taguer nos équipes dev par exemple lorsqu'ils ont shippé une super feature produit pour qu'ils voient aussi un petit peu ce que ça peut donner concrètement auprès des clients. Je pense que c'est super important aussi pour valoriser leur travail. Et puis effectivement, parfois, quand on voit qu'il y a des comportements, un bouton sur lequel on s'est pas mal pris la tête, on s'est dit « Ok, ça va résoudre tout un tas de trucs. » En fait, on voit qu'il n'est pas du tout visible ou que les clients, en général, ils comprennent pas exactement quand est-ce qu'il faut cliquer dessus, etc. Bah, c'est aussi ce genre de channel qu'on va utiliser pour highlighter, on va dire, ce genre de comportement, quoi.
Ouais, alors nous on utilisait beaucoup des channels Slack aussi, donc c'était des market suggestions, c'était vraiment une channel pour centraliser tous les feedbacks. Après on s'est rendu compte que c'est assez difficile de centraliser l'information après d'en tirer vraiment des conclusions parce que bah comme tu le disais Alex, en fait c'est souvent des débats, c'est souvent oui, pourquoi est-ce qu'on est sûr que c'est le besoin final? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres fonctionnalités qui peuvent répondre à ça? Et finalement, on perd l'objectif principal qui était simplement partager un feedback et ça devient un débat. Donc, on est aussi en train de commencer à utiliser Product Board pour centraliser l'information, faire voter les utilisateurs. Donc, on a pu intégrer la plateforme à notre tableau de bord. Donc, tous les utilisateurs peuvent accéder à la roadmap et voter en fait pour les fonctionnalités qui sont les plus importantes à leurs yeux. Donc, ça permet vraiment de passer plus d'un feedback ou des retours qualitatifs à plus quelque chose de quantitatif qui va permettre d'aider l'équipe produit à construire la roadmap, parce que il faut apprendre aussi en grandissant, quand l'entreprise grandit, à pouvoir passer d'écouter un client à écouter plusieurs clients à la fois qui ont peut-être des besoins qui se recoupent. Et donc des outils comme ça permet d'avoir un petit peu une vue d'ensemble, et bien que les conversations sur Slack sont intéressantes, de pouvoir s'orienter plus facilement que dans un fil de conversation.
Ouais, tout à fait. Je pense qu'effectivement, nous, le process, quoi qu'il arrive, on remonte le feedback sur Product Board, ce qui permet vraiment de structurer la collecte, la remontée et feedback. Et ensuite, on va se servir de ça pour les roadmaps des mois et des trimestres suivants. Mais c'est vrai qu'on parlait aussi en amont un petit peu de lobbying. Parfois, Slack, ça permet aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité et de créer, on va dire, un petit momentum sur une remontée particulière. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, je pense que ce que tu dis, c'est très juste sur l'aspect quantitatif. On essaie aussi de plus en plus, lorsque un client va nous remonter un besoin, par exemple, d'essayer de bien comprendre finalement le périmètre et de voir aussi, en termes de valeur, potentiellement, ce que ça pourrait permettre de débloquer en upsell ou en cross-sell, par exemple. Donc on essaie aussi maintenant d'avoir un petit peu cette manière de penser en disant si jamais on décide d'aller dans ce sens-là, on a remarqué que tel et tel client pourrait être intéressé, voilà le potentiel aussi en termes de valeur que ça pourrait représenter.
Justement, tu as mis le doigt sur le sujet phare, effectivement. Je vois que vous êtes bien rodé sur demander du feedback à vos clients et le faire passer avec les bons outils. Maintenant, concrètement, face à l'équipe produit, quel type de relation est-ce que vous avez? Tu as parlé un peu de lobbying. Quel est le poids finalement que va avoir vos feedbacks versus peut-être la roadmap qui était déjà actée?
Yes. Écoute, nous, on est très proche de l'équipe produit. On travaille vraiment main dans la main. Il y a énormément de routines de communication en place, ce qui permet d'avoir des vrais échanges, des vrais moments. On peut discuter ensemble. On a aussi l'habitude d'inviter, et d'ailleurs l'équipe produit est toujours aussi assez proactive, d'inviter le produit à certains appels ou à certaines réunions avec le client, ce qui permet aussi pour le produit d'avoir du feedback en live, je dirais, de pouvoir creuser certains points de manière un petit peu plus précise. Donc, on n'hésite pas à faire des appels avec le produit aussi, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Puis pour le client aussi, ça permet d'avoir un autre interlocuteur et potentiellement de creuser aussi certains sujets, certains besoins de manière un petit peu différente que si on en avait discuté juste avec lui. On a l'occasion d'échanger, comme je vous disais, un petit peu tout le temps. On a aussi le lundi matin un kick-off compagnie où chaque lundi, on va insister sur une histoire client, une customer story. Alors, on va pouvoir parfois parler de succès client, belles histoires, de satisfaction, d'expansion. Et puis parfois, on va aussi parler de choses qui se sont un petit peu moins bien passées. Et ça permet d'avoir une vraie tribune pour communiquer certains messages à l'ensemble de la boîte. Et c'est toujours très apprécié. Et puis, quelque chose aussi qu'on a lancé il y a pas mal de temps maintenant, on appelle ça des Extended Squad. Et en fait, quand on va avoir travaillé la roadmap, on va avoir certains projets, certaines fonctionnalités qu'on va vouloir mettre en place qui vont se décliner sous différentes Extended Squad. Et en fait, une Extended Squad est l'idée par quelqu'un du produit, mais va en son sein regrouper différentes sensibilités, je dirais, de l'entreprise. Donc, il y a généralement un Customer Success, un Sales, un référent tech sur un sujet bien précis. On a également aussi le marketing avec nous parfois. Et en fait, tout le monde est réuni autour de la table en amont avant de lancer un projet, avant de lancer une fonctionnalité. Ça permet de bien tout cadrer et de s'assurer que toutes les sensibilités, tous les points de vue sont bien représentés. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et dans l'exécution, on a remarqué que derrière, ça se passe bien mieux que quand il y avait une vue un petit peu plus silotée.
Alors moi, j'ai juste un bémol à mettre sur le terme lobbying. Où je trouve que c'est un mot vraiment fort où on a l'impression que si chaque account manager est lobbyiste pour son client, il va falloir coordonner à un moment. Donc ouais, juste un bémol sur le thème de lobbying, parce que je considère quand même que pour nos clients, le fait de choisir notre produit, c'est aussi un petit peu de croire en notre stratégie, de croire en notre approche et en croire au futur un petit peu de notre produit. Donc ça passe un petit peu pour moi aussi par la pédagogie du client, la relation qu'on va créer avec notre client et de simplement rappeler le fait qu'on n'est pas une entreprise de développement, on est une entreprise qui a un but précis d'apporter des solutions. Et donc, de travailler un petit peu main dans la main avec ton équipe produit et avec ton client. On va ensemble vers une solution, vers une approche spécifique, plus que de dire moi je vais défendre les besoins de mon client, et t'es un peu en opposition potentiellement avec d'autres collègues qui ont d'autres problématiques relevées. Donc simplement un point que je voulais relever.
C'est très vrai ce que tu dis, Philippine, et merci de effectivement replacer les choses dans leur contexte. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de remontée de feedback en bottom-up, mais hyper intéressant aussi de parler de la partie top-down, lorsque tu vas effectivement informer tes clients des process et des décisions qui sont déjà prises en interne. Ça, c'est hyper important dans le cadre aussi des relations commerciales. Comment est-ce que tu t'y prends concrètement ?
La manière dont je m'y prends le plus souvent, c'est vraiment commencer dès le début, dès l'introduction, dès la première fois que je me présente en tant que relationship manager auprès de mon client. C'est vraiment de manière proactive expliquer qu'est-ce qui va se passer avec des commentaires qui nous sont partagés. Donc tous les retours produits qu'un utilisateur va nous faire, qu'est-ce qu'on en fait ? Pour que ce soit très clair dans la tête de l'utilisateur, pour qu'il se dise « Ok, Mon retour, il va passer par plusieurs étapes. On va le partager à notre équipe produit. On va voir s'il y a d'autres demandes clients qui rejoignent ce besoin. On va explorer s'il y a plusieurs manières de le faire. On va voir la manière la plus intelligente, la plus durable. Il ne faut pas qu'une fonctionnalité, elle réponde à un besoin très temporaire. Là, par exemple, chez Proxykick, on a beaucoup de besoins pour des questionnaires de santé. On veut être sûr que les visiteurs n'aient pas de symptômes en rentrant dans un bâtiment. Qu'est-ce que ce genre de fonctionnalité ou ce genre de demande va devenir dans 2 ans, 5 ans? quand ce sera plus, on sera plus forcément, je pense c'est toi, mais qu'on sera plus au milieu d'une pandémie. Donc c'est vraiment toutes ces démarches là et que ce soit, voilà, que ça ait du sens, que ce soit durable, et ça passe vraiment par, voilà, dès le départ expliquer comment ça se passe, voilà, pouvoir partager encore une fois la vision qu'on a de retours clients.
C'est sûr que le produit a ce trait généralement de personnalité et qui est très bien, très juste, de prendre un petit peu de recul sur les choses. Je pense que nous, on a parfois une vue, voilà, on a un peu plus la tête dans le guidon, je dirais, et on va remonter un feedback sans forcément penser à ce que ça va pouvoir donner 6 mois, 12 mois ou plusieurs années plus tard. Surtout en ce moment, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, on voit qu'il y a des enjeux plus particuliers qui ont émergé. Et puis voilà, effectivement, la question c'est est-ce que ça va être amené à se poursuivre ou pas. Donc c'est sûr que c'est toujours très intéressant de voir la manière dont eux ils vont prendre la chose pour toujours essayer de la contextualiser dans le temps et s'assurer qu'effectivement on est bien à proposer finalement quelque chose qui est dans notre ADN, qui est notre produit, qui est dans notre vision. Aussi et qui va avoir du sens pour la grande majorité de nos clients dans le temps. C'est vrai que on fait pas de custom, comme tu disais, on n'est pas une boîte de développement. Donc finalement, lorsqu'il y a un besoin, il faut s'assurer que la manière dont on va y répondre, ça puisse être partagé par le plus grand nombre de nos clients. Et donc c'est comment est-ce qu'on trouve effectivement ce bon équilibre où on va répondre à un besoin. Tout en s'assurant qu'il y a une majorité des clients qui vont pouvoir en bénéficier. Ouais.
Et quand ce n'est pas le cas, alors quand c'est une demande un peu particulière ou qui n'est pas forcément en phase, comme tu disais, avec l'ADN de l'entreprise, comment est-ce que vous dites non en fait à vos clients? Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même trancher.
Oui, effectivement. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses là-dessus. Il y a le fond et puis il y a la forme. Finalement, sur la forme, on va aussi parfois être accompagné du produit pour aller justifier un choix auprès d'un client. On a mis en place ce qu'on appelle des executive business review. Donc, c'est vraiment des rendez-vous où on va essayer de prendre un petit peu de recul sur l'utilisation du client de la plateforme. On va vraiment écarter les sujets très opérationnels, très micro, pour se focaliser sur le macro. Et on va aussi pouvoir, à ce moment-là, expliquer un petit peu les choix de roadmap. Et donc, Philippine le soulignait, la pédagogie, c'est finalement extrêmement important. Et ce que tu mentionnais au tout départ sur le côté psychologie, c'est très vrai. Je pense que c'est extrêmement important de toujours bien avoir ça en tête. Et puis, c'est aussi notre rôle en tant que Customer Success Manager, parfois, d'identifier aussi certaines... je dirais partie du produit où le client peut-être sous-utilise et de se dire ok, bon bah t'as ce besoin là, tu nous remontes cette chose, c'est quelque chose qu'on t'acclara dans 6 mois, dans 9 mois, mais en attendant on va pouvoir se focaliser sur cet aspect plus précis à court terme et t'apporter de la valeur. Et je pense que c'est aussi à nous de en fonction du calendrier et du timing de trouver des axes pour toujours être en amélioration continue. Donc voilà, ça passe aussi beaucoup par la pédagogie, par la mise en contexte. Parfois, on a aussi besoin de finaliser certains développements pour pouvoir en faire d'autres. Typiquement, nous, on revoit un petit peu l'infrastructure comptable ces derniers temps. C'est un gros projet qui prend beaucoup de temps à nos équipes techniques. Et on sait qu'une fois que ce projet-là sera totalement finalisé, on va pouvoir venir ajouter sur ce code-là tout un tas de nouvelles features. Mais il faut d'abord qu'on ait finalisé ce travail de fondation pour ensuite pouvoir venir ajouter de nouvelles choses. Et donc, en fait, quand on explique ça au client, généralement, il l'entend très bien. Et puis aussi, on a souvent d'autres startups, scale-up, d'autres entreprises qui ont aussi des enjeux similaires en interne et qui, du coup, le comprennent tout à fait bien.
Moi, je te rejoins complètement sur ce point. Et pour moi, c'est... La meilleure manière de répondre à un besoin d'un client qui demande une fonctionnalité vraiment précise, il dit mais moi j'ai besoin de pouvoir cliquer ici et que telle action se déclenche, en apportant cette pédagogie dont tu parles, tu vas pouvoir expliquer en fait les problématiques auxquelles on va répondre. Donc là l'entreprise, on cherche à solutionner tel problème, on cherche à faciliter tel process, etc. Et ça va justifier, donc, comme tu l'expliques très bien, le timing des développements. Donc, on va commencer par construire une base solide avec les fonctionnalités simples. Puis après, on va augmenter la granularité des fonctionnalités. Et ça permet vraiment de que ce soit plus une conversation avec un client. C'est pas on nous demande une fonctionnalité, on dit non et c'est la fin de la conversation. Si ça peut devenir une conversation et dire bah non, c'est vraiment sur ce type de problématique sur lequel on travaille, pour moi ça devient plus une conversation et c'est tellement plus agréable à avoir avec un client de parler plus de démarche que d'une vraiment une fonctionnalité spécifique, parce qu'encore une fois on va pouvoir peut-être identifier soulever d'autres problématiques que vous voulez une fonctionnalité spécifique, mais peut-être que qu'on peut y répondre différemment avec une fonctionnalité qui soit existe déjà, soit qu'on va améliorer dans un futur proche. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est que ça devienne une conversation et pas seulement des demandes auxquelles on répond oui ou non.
Partager plutôt les problématiques auxquelles l'entreprise est en train de répondre et pas des fonctionnalités précises. Et effectivement, c'est important de resituer les choses et de dire qu'on veut reprendre les bases, être sûr d'avoir des bases bien solides avant de construire des fonctionnalités plus chiadées. Donc là, je comprends bien. Et pour conclure, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait lister comme bonne pratique à retenir pour apaiser les relations entre les account managers et le département produit, pour, comme on a dit tout à l'heure, avancer main dans la main et de manière constructive?
Je pense qu'on l'a dit, je pense, 6 fois dans la conversation, mais je pense que la proactivité, c'est vraiment primordial et de rendre ça agréable dans la conversation. Et nous, quelque chose qu'on fait depuis quelques mois, c'est d'aller chercher, nous, du feedback auprès des clients. C'est-à-dire que c'est nous qui définissons un petit peu le cadre. Donc voilà, on va travailler sur cette fonctionnalité. Dernièrement, c'était, comme je l'ai cité tout à l'heure, les problématiques de sécurité du bâtiment, s'assurer que les visiteurs n'aient pas de symptômes et pouvoir retrouver qui était là tel jour s'il y a un risque de contamination. Là, on va inviter des clients à nous donner du feedback. Donc là, ça devient un petit peu, encore une fois, une conversation, on les invite, on valorise leur feedback et c'est nous qui donnons vraiment le thème. Donc, plus c'est proactif et plus la conversation en devient sympa et on avance ensemble.
Exactement, et puis je pense qu'il y a aussi une dynamique où c'est important que les équipes Customer Success, Account Management, les équipes commerciales, business en général, comprennent aussi la manière dont le produit travaille, le timing qu'ils ont aussi parfois pour pouvoir mettre en place certaines choses, les contraintes aussi. Et le produit fait aussi cet effort-là pour comprendre aussi parfois certaines urgences ou certains retours clients. Donc je pense qu'il y a un travail qui est fait en bonne intelligence de la manière dont finalement chaque équipe fonctionne. C'est vraiment primordial. Avoir des moments, on le rappelait, d'échange, c'est super clé. Et voilà, de manière aussi assez continue, on sait qu'on a l'occasion très souvent de discuter, de partager du feedback, de se poser. Et puis aussi de demander aux produits parfois certains conseils dans le pitch pour pouvoir ensuite présenter aux clients de manière plus précise certains choix. Donc c'est vraiment un travail qui est fait main dans la main. Ouais, j'ai personnellement beaucoup appris en contact des équipes produits, la manière aussi dont ils avaient traité les problématiques en pensant toujours aux clients, à la vision, au plus grand nombre, à la temporalité. Donc c'est super intéressant. Nous, on travaille aussi énormément avec des phases de bêta, c'est-à-dire que avant de lancer une fonctionnalité pour le plus grand nombre, on va la bêta tester sur un panel plus réduit. Et donc voilà, ça permet aussi à certains clients qui ont des remontées assez souvent un certain besoin, certains enjeux, de les mettre en priorité sur certains usages et de vraiment co-construire le produit avec eux. Donc c'est, je pense, aussi très valorisant, et donc on fait en sorte aussi, voilà, de, d'avoir toujours ces phases de bêta qui permettent de modérer un petit peu aussi les attentes, quoi.
Top. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas, hyper clé vos retours, surtout que vous êtes sur des produits qui évoluent en permanence, puis quand on commence à devenir accro à un produit, je pense qu'on se l'approprie tellement qu'on veut limite être soi-même acteur des prochains développements, même si on n'est que des simples clients, quoi.
Complètement, complètement, on a envie que ça marche pour tout le monde.
Top. Mais en tout cas, ouais, je retiens, merci beaucoup pour vos bonnes pratiques sur impliquer davantage le produit dans nos process, account management, tu parlais des pitchs, avoir beaucoup plus ce côté pédagogique lors d'une conversation, que ce ne soit pas juste du top-down ou bottom-up sur un sujet. Donc, hyper intéressant. Merci beaucoup à tous les deux. Franchement, ça m'a fait hyper plaisir de vous rencontrer.
C'était top, merci beaucoup.
Merci à tous les deux.
À bientôt, salut.
À bientôt.
À bientôt. Salut.